Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite sur RTL, on découvre un monde mystérieux fait de cotes, de réformés, de pénétromètres. Bonjour Bernard Glass.
Bonjour, bonjour Thomas, Bernard. Bonjour Sidonie.
On va vous avouer quelque chose quand avec vos collègues Turfy, spécialiste des courses hippiques sur RTL, vous nous donnez les résultats en direct à 14h et qu'on entend un pénétromètre à 3.9.
On est admiratif déjà.
Ah ouais, ça nous fait l'après-midi, donc c'est forcément la première question. C'est quoi le pénétromètre?
J'ai peur de vous le dire. Le pénétromètre, c'est un instrument qui permet de mesurer l'état du terrain en profondeur avant les courses et donc de savoir si la piste est souple, ferme, dure, et cela permet à certains chevaux, notamment dans les courses de galop, de bénéficier ou pas d'un terrain à leur convenance.
Le pénétromètre, est-ce qu'il peut décider du vainqueur du Grand Prix d'Amérique dimanche
non,
à Vincennes?
Non, ça se fait plutôt pour le galop. Le Prix d'Amérique, c'est le trot, et sur le trot, il n'y a pas ce problème. On court sur du mâche fer, donc tous les chevaux.
C'est quoi du mâche fer?
C'est une sorte de un peu travaillé qui résiste à toutes les intempéries possibles et qui permet aux chevaux de courir aussi bien l'été que l'hiver, dans la neige, dans la boue, partout.
Le Prix d'Amérique, c'est la course de trot la mieux dotée au monde. Mais combien gagne le vainqueur? Réponse dans un instant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
À l'entrée de la ligne droite, avec toujours Mélina Jospin qui est en tête.
RTL.
Et voilà Paul Higal maintenant qui est lancé. Un grand champion, il passe à l'attaque.
Sidonie Bonnec.
Paul Higal qui s'en va vers un deuxième prix d'Amérique. Quelle victoire! Deuxième place pour Mélina Jospin.
Curieuse, curieux.
Mélina Jospin qui a été grande, mais qui n'a rien pu faire face à la superstar du trot français, Bold Eagle.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Voilà, c'était l'arrivée du 96e Grand Prix d'Amérique il y a tout juste un an, puisque le 97e se court dimanche à l'hippodrome de Vincennes. Et ça nous a donné donc envie de découvrir le monde des courses hippiques et alors aussi de s'amuser avec les drôles de noms des chevaux, Bernard Glass. On commence par ça, cette séquence. On va égrener quelques noms marrants. Alors, il y a les musicaux comme Tata Yo-Yo ou Cœur de Rocker. Il y a les religieux. Il y avait un Monsieur le Curé qui était drivé par...
Alors, c'était un cheval d'obstacle, Monsieur le Curé. Ouais. Et il était associé souvent à Christophe Pieux. Et
il n'y avait pas un Pierre Lévesque aussi qui
Pierre Lévesque, c'était plutôt au trot. Mais non, c'était plutôt Christophe Pieux.
C'est drôle.
Et une fois, il a été entraîné par Sébastien Jésus. Comme quoi, ils avaient mis tous leurs atouts pour l'emporter.
Il y a aussi les onomatopées comme Hatchoum, les sportifs comme Tête de Zizou. Qui c'est qui décide du nom d'un cheval?
Alors, ce sont en général les éleveurs, mais souvent les propriétaires sont également éleveurs, donc ils sont de concert. Mais des fois, ce sont des onomatopées, donc où on synthétise le nom de la mère, le nom du père, et puis on choisit.
On s'amuse.
Mais il y a aussi des noms amusants à faire.
Il y a des pièges aussi. Il y a des pièges pour vous.
Ah, des quand pièges on commence. Pour nous, oui, tout à fait. Oui, on a des noms pas possibles. Voilà. Alors moi, il y a des chevaux que j'aime bien. Il y a des chevaux célèbres comme Aque Coucou. En référence
mignon.
À qui vous savez.
Un hommage à Johnny, oui, c'est bien.
Et le plus amusant, ça a été J'arrête de Boire. J'arrête de Boire a fait une petite carrière, pas une grande carrière, comme quoi il n'a pas été récompensé.
Il y a aussi le marchand d'art Daniel Wilderstein, par exemple. Son métier l'inspirait aussi pour nommer ses chevaux.
C'était un passionné, effectivement, il nommait ses chevaux. Alors le plus connu a été peintre célèbre, évidemment. Il a remporté le prix de l'Arc de Triomphe. Ouais. Et après, il a eu un cheval qui s'appelait Coro. Il a eu plein de chevaux qui portaient des noms de tableaux aussi très sympathiques et tout ça. Là, c'est agréable.
Mais pour appeler son cheval Coro, il faut qu'il ait une autorisation des ayants droit du peintre, peut-être
Pour ceux qui sont décédés, il n'y a pas de problème en France.
Ouais.
Donc, il peut appeler qui il veut. À l'étranger, on peut nommer même des noms de personnalités vivantes. Il y a un Platini, il y a un Zizane.
Il y a un Trump ou pas?
Il n'y a pas encore de Trump.
Ça ne saurait tarder.
Ça ne saurait tarder. Mais en France, il faut quand même...
Ah, est-ce qu'il y a un Kennedy?
Alors non, il y a eu un Washington,
ouais.
Mais il n'y a pas de Kennedy, non.
Alors, on a décidé de parler des chevaux de course, de leur nom, marrant, mais pas seulement, parce qu'il y a ce Grand Prix d'Amérique qui se court dimanche à Vincennes. C'est la course de trot, la mieux dotée au monde, si je ne me suis pas trompé.
Tout à fait.
1 million d'euros, c'est ça?
1 million d'euros de total d'allocation, donc 450 000 euros pour le gagnant,
ouais.
250 000 pour le second, 140 000 pour le troisième, 81 000, 50 000, 20 000 et 10 000. Les 7 premiers sont payés.
Sont dotés 450 000 euros pour le gagnant, ça veut dire que toute cette somme va dans la poche du propriétaire? Comment ça se passe? Est-ce que c'est ventilé?
Alors, tout dépend. Au trot, je vous ai dit, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a le galop et le trot. Et en ce qui concerne le trot, ils sont souvent entraîneurs et propriétaires en même temps. Donc, dans ce cas-là, ils récupèrent la grande majorité de l'argent.
Mm-hmm.
Ils sont aussi drivers. En ce qui concerne, par exemple, le favori, Bold Eagle, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, ouais. Donc là, c'est vraiment réparti en trois personnes. Donc, il y a le propriétaire, il y a l'entraîneur et il y a le driver. En général, le driver et l'entraîneur prennent 7% à peu près du prix. Et le propriétaire, le reste, moins un peu d'argent qu'il laisse à l'écurie, ce qui est normal d'ailleurs.
Est-ce que le driver touche une prime de victoire aussi ?
Voilà, donc si le cheval gagne, ouais. Il touche 7% de, la valeur du prix. Et donc là, pour le coup, c'est Franck Nivard. Donc si le cheval gagne, il touchera, en ce qui concerne Bold Eagle, il touchera beaucoup d'argent.
Mais il est payé quand même s'il ne gagne pas ?
Ils ont une prime quand même de participation, si on peut dire, ouais. Mais qui est vraiment infime par rapport aux primes qu'ils peuvent gagner. Mais là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire pour les drivers qui sont en lice.
Bernard Glass, le prix d'Amérique, c'est un événement mondial. Il est diffusé dans 36 pays, à 500 journalistes accrédités. Combien de parieurs ?
Maintenant, il y a beaucoup de parieurs étrangers puisque le PMU s'est beaucoup développé dans la plupart des pays étrangers. On pense qu'il y a peut-être à peu près 30 millions, 35 millions de parieurs dans le monde et qui jouent sur cette épreuve.
Et pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'univers épique, la cote, c'est vraiment un élément essentiel. C'est quoi ? Comment ça fonctionne ?
Alors,
ça sert ?
En France, nous avons ce qu'on appelle, par rapport à l'Angleterre, qui a des cotes fixes. Nous, on a la cote mutuelle. Donc le pari mutuel, ça veut dire que les joueurs jouent les uns contre les autres. Plus le cheval a une chance de l'emporter, plus l'argent est mis sur ses chances et plus la cote baisse. Et donc plus un cheval favori apparemment part à 2 contre 1 ou 3 contre 1 ou 4 contre 1, ce qui veut dire deux fois ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et à contrario, s'il n'est pas du tout favori, bien évidemment
il faut prendre des risques.
60-70 contre 1. En Angleterre, c'est différent parce que la cote est fixe, c'est-à-dire qu'à partir les bookmakers décident une cote par exemple 3 semaines ou 1 mois avant la course et quoi qu'il arrive, le cheval remporte la cote qui est fixée. En France, elle fluctue tout le temps jusqu'au départ de l'épreuve.
Le Grand Prix d'Amérique qui a vu naître des chevaux de légende, on vous présente forcément Ourasi dans un instant sur RTL. Son propriétaire avait une particularité physique un peu gênante pour driver un cheval
rien
de course.
Rien à voir avec le pénétromètre ?
Non, rien à voir, vous verrez.
C'était un petit cheval blanc.
Ils ont trouvé un cheval qui errait dans le No Man's Land. Un cheval prodigieux, si tu veux mon avis.
La curiosité est un vilain défaut.
Voilà les chevaliers du ciel.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Avec Bernard Glass, le monsieur course hippique d'RTL, on découvre l'univers des turfistes avant le prix d'Amérique. D'ailleurs, le mot turf, justement, ça vient d'où ?
Ça vient d'Angleterre, ça veut dire gazon un peu. En gros, c'est l'endroit où avaient lieu les courses, puisque les Anglais ont inventé les courses hippiques, c'est l'endroit où avaient lieu les courses.
Pourquoi Bernard Glass, le Grand Prix d'Amérique, c'est une course différente des autres ?
Parce que, d'abord, c'est la course sur laquelle on parie le plus en France. Ouais. Les turfistes aiment bien cette épreuve dans la mesure où ce sont des trotteurs qui sont très connus. Contrairement aux galop où les chevaux arrivent au meilleur de leur forme à 3 ans, les concurrents qui disputent le prix d'Amérique en général entre 6 et 10 ans. Donc les gens ont l'habitude de les voir. En plus, il y a un système de préparatoire qui sont des quintés et donc les concurrents accrochent à cette fameuse, c'est comme la Coupe de France, si vous voyez.
Ah oui,
comme
finale.
Et oui, ceux qui gagnent les épreuves précédentes.
Voilà, quart de finale, demi-finale et finale. Et donc à la fin, ils connaissent vraiment les acteurs et c'est pour ça que c'est une course très intéressante pour eux. Et puis, moi, je trouve que le trot, les trotteurs répètent un peu plus leur performance que les galopeurs. C'est-à-dire que quand les chevaux de trot arrivent à une certaine valeur, en général, ils répètent cette performance et les turfistes aiment bien cela.
Répéter, c'est-à-dire qu'ils sont fiables.
Ils sont fiables dans leur performance et les turfistes aiment bien cela parce que ça leur permet de donner des points d'appui pour pouvoir jouer après.
Et ça nous permet de comprendre pourquoi il y a aussi des stars qui sont, il y en a eu aussi sur le plat, mais qui sont nés dans ces courses de trot. Et on va parler d'Ourasi. 4 victoires, c'est ça, à la fin des années 80.
C'est le recordman des victoires dans ce prix d'Amérique, avec 4 victoires. Après, ils sont 3 ou 4 à avoir remporté 3 victoires, dont Roquépine, qui a remporté, et Bellino 2, qui a remporté 3 victoires. Et après, ils sont plusieurs à avoir remporté 2 succès, mais c'est pas évident de remporter 2 succès dans cette épreuve. Et donc, c'est le cas de Bold Eagle qui sera le favori cette année encore.
Alors, il avait un propriétaire américain, Ourasi, qui avait une particularité. particularité physique qui n'a rien à voir, Sidonie, avec ce que vous imaginiez. Quelle était cette particularité, Bernard?
Avec le pénétromètre.
Non.
Quoique, il était sourd. Il était sourd de naissance, ouais. Ce pauvre homme. C'était Raoul Ostheimer, une personnalité très sympathique qui a eu le cheval sur le tard, qui vivait chichement en France et puis qui a eu le bonheur d'avoir Ourasi. Alors, l'anecdote amusante, c'est que quand Ourasi a débuté en compétition, il a voulu le driver et il n'a pas entendu les commandements à 2-3 parties puisqu'il était sourd. Donc, il est parti avec 50 mètres de retard sur les autres. Et le cheval n'a pas gagné, alors qu'après, il a été intelligent. Il l'a donné à driver à Jean-René Goujon, qui en a fait le meilleur. Moi, j'ai une autre anecdote sur Ourasi. Oui. Raoul Ostheimer, malheureusement, c'est le regretté Guilux, qui était un petit peu imbibé après une arrivée d'une course sur l'hippodrome d'Anguin et qui a fait venir le pauvre Raoul Ostheimer pour le féliciter d'une victoire d'Ourasi.
Oui.
J'étais là et donc, il lui a dit, mais bravo, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment? Et puis, comme l'autre était un peu sourd et aussi un peu muet aussi,
donc, ça n'a pas donné la meilleure interview télé ou radio de l'histoire.
Et le pauvre Guilux a conclu son speech en disant, excusez-le, il est beaucoup ému par la victoire de son cheval, alors que ce n'était pas le cas.
Pourquoi on surnommait Ourasi le roi fainéant?
Parce qu'il faisait le minimum à l'entraînement.
Il se gardait
pour la compétition, génial. Et voilà, donc c'est pour cela qu'on l'appelait le roi fainéant.
Il a même sa statue, Ourasi?
Il a la statue sur l'hippodrome de Vincennes, récemment, qui a été faite il y a 4 ou 5 ans à peu près.
Mais il y en a beaucoup comme ça, des statues de chevaux dans les hippodromes?
Voilà, il y en a quelques-unes. Au galop, il y avait la statue de Gladiateur, qui a été l'un des meilleurs galopeurs français. Et puis, en obstacle, il y a la statue d'Al Capone sur l'hippodrome d'Auteuil.
Il y a une toute petite histoire encore, parce que il y en a 15 à la douzaine, hein, si on veut, Bernard, mais là, on est au prix de l'Arc de Triomphe, 74, on va parler d'un autre cheval mythique, Allez France. Elle court avec un jockey qui est Yves Saint-Martin. Dans quel état il est?
Propriété de Dale Evdilsheim. Bah, Yves Saint-Martin s'était malheureusement blessé 3 semaines auparavant, et il était blessé, il avait des bandages à peu près partout, et donc il avait très mal aux omoplates, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, il a quand même voulu courir la course et il l'a gagné, bien sûr.
La curiosité continue sur RTL. Ces chevaux de légende deviennent parfois des étalons ou des poulinières très recherchées. Mais combien peut valoir une saille de star?
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
C'est un monde de passion qui nous ouvre ses portes grâce à Bernard Glass, le monsieur course hippique de RTL. Je dois vous avouer que ça me rappelle des souvenirs d'enfance, puisque mon parrain m'emmenait sur tous les champs de course de la région parisienne quand j'avais.
Et vous pariez tout
6,
petit
7,
ou pas
8, jusqu'à 11, 12 ans. Oui, bien sûr, je lui donnais des conseils, je ne connaissais rien, mais de temps en temps, il choisissait mes chevaux.
Ça avait commencé là-bas.
Mes chevaux et mes numéros. C'est un monde avec son jargon, Bernard. Par exemple, les réformés, c'est quoi les réformés?
Ce sont des chevaux qui ont été blessés durant leur carrière de course et qui ne peuvent plus courir, et donc on en essaye de caser dans les clubs hippiques, et ça arrive régulièrement.
Il y a une époque où on les emmenait à l'abattoir aussi, ces chevaux-là.
Ouais. Il y en a quelques-uns qui vont malheureusement finir à l'abattoir, et d'autres, la plupart, vont quand même dans les clubs hippiques.
Ça n'arrive jamais pour les cracks, pour les meilleurs, pour les stars dont
on parlait?
C'est un
business maintenant extraordinaire. Les talons et la jument sont très recherchés. On a l'impression que les courses, beaucoup plus qu'auparavant, s'internationalisent maintenant. Donc aussi bien le trot va beaucoup avoir de demandes d'Italie, de Suède, de Norvège, alors que le galop est vraiment beaucoup de demandes des États-Unis, de l'Angleterre et de l'Irlande notamment.
Bernard Glass, ça peut coûter combien une saillie de crack, justement?
Alors, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps en ce qui concerne le trot, justement, pour Ready Cash, qui est vraiment l'étalon de trot vedette en ce moment. La saillie est de 50 000 euros.
Waouh!
Et sans garantie. Ça veut dire que si ça ne donne pas de résultat, eh bien, la personne perd ses 50 000 euros. Alors, en général, ils prennent une assurance qui coûte 10 000 euros.
Et donc ça marche facilement ou pas chez les chevaux?
Ready Cash marche très bien. Vraiment, il a une très grande réussite. Donc, il aura 3 produits parmi les favoris du prix d'Amérique. Et donc, c'est vraiment celui vers lequel tout le monde se tourne. Et donc là, vraiment, ça coûte au minimum 60 000 euros. Au galop, c'est même plus cher. Il y a un cheval qui s'appelle Galileo, qui est un cheval irlandais, dont la mère était française, d'ailleurs, Urbansea. Et lui et hors côté, quoi. Ça se fait à l'amiable.
Une saillie d'Ourasie dont on parlait tout à l'heure, ça valait cher ?
Oui, sauf qu'il est devenu infertile. Infertile. Malheureusement, il n'a pas produit de craques ou de chevaux d'intéressants.
Il y a des craques et il y a les pouliches aussi.
Les
juments, elles font partie des craques ou c'est.
Bien sûr, tout à fait.
Et elles sont recherchées aussi ?
Elles sont recherchées, mais disons, effectivement, par l'efficacité, la jument n'a qu'un seul produit bien par sûr. Année, tandis que les étalons peuvent produire énormément. Donc, effectivement, on préfère peut-être plus les étalons que les juments. Mais il y a eu donc une de mai qui a été une jument célèbre. Il y a une jument qui s'appelle Roxane Griff, actuellement, qui est très estimée.
Une de mai qui a eu des petits, des bébés ou pas ?
Je vois venir. Non, malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup d'enfants. Alors souvent, on met des numéros derrière. Je vous laisse deviner la suite.
Ben voilà, parce que si elle avait eu une fille, on aurait pu l'appeler Sidonie, une de mai.
Ah, une de mes deux.
Voilà, c'est vous qui l'avez dit.
Ça. Oh, mais c'est élégant.
On en revient du coup.
Ça aurait pu passer au nom de nom.
Au nom rigolo.
Au nom rigolo, donc il y a eu la turlute. Donc il y a eu la turlute qui a existé et qui était un mâle d'ailleurs. Et qui...
C'est un vrai nom de cheval, ça ?
C'est un vrai nom de cheval. Et bon, j'ai un peu honte parce que moi, j'ai fait l'interview de l'entraîneur de la turlute qui m'a expliqué A plus B et c'est passé sur l'antenne de M6 les explications de ce nom.
Ah oui, alors ?
Eh bien, c'était en hommage à son cousin qui avait l'habitude de se promener tard la nuit.
C'était élégant.
C'est drôle.
Il doit être content, le cousin. De voir ses habitudes affichées dans les hippodromes.
Les propriétaires, ils ont quand même beaucoup d'humour. Moi, j'aime beaucoup ceux qui appellent leurs chevaux lamentables, non partants, ou n'y touchez pas. Voilà. C'est vraiment... Je crois qu'ils leur en veulent.
Moi, j'ai joué un jour un cheval qui s'appelait Gris d'égout.
Voilà. Il vous a rapporté ?
Non, il est passé au travers.
Un cheval, on lui parle quand même. Je veux dire, quand on l'entraîne, c'est un nom qu'on donne tous les jours. C'est pas très agréable. Ouais.
Non, c'est pas agréable. Et puis on leur trouve des petits diminutifs pour certains, mais effectivement.
Gris-gris.
Mais enfin, c'est effectivement, il y en a qui leur en veulent.
Attention à la manière dont vous nommez vos chevaux.
Voilà. Merci beaucoup, Bernard. C'était un plaisir.
Merci à vous deux.
Évidemment, tous les jours sur RTL, régulièrement en tout cas, et dimanche pour le Grand Prix d'Amérique.
16h05, départ de la course. On y sera.
N'oubliez pas votre pénétromètre.
Vous écoutez RTL.